est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km des côtes. Alors quand la mer monte, c'est une partie de l'humanité qui se noie ou qui déménage. Or, à cause du dérèglement climatique, l'océan grignote les plages et les villes. Mais est-ce seulement à cause de cela ? Pas si sûr. Par exemple, la ville historique de Saint-Louis au Sénégal subit les assauts de l'Atlantique. Mais comme vous l'entendrez, grâce au reportage de Samuel Turpin, cela n'a rien à voir, pour l'instant en tout cas, avec le dérèglement climatique. Et qu'en est-il plus largement des côtes ouest-africaines ? Eh bien, au risque de vous surprendre, c'est l'activité humaine qui est en cause. Vous en doutez ? Eh bien, écoutez, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Raphaël Almar.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, au LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. C'est dans le sud-ouest de la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord l'ampleur de l'érosion côtière au niveau mondial ?
Alors, l'érosion côtière, c'est un sujet d'actualité qui va le devenir encore plus au cours des prochaines décennies au XXIe siècle. La plupart des côtes sont en érosion, mais pas toutes. Et donc, je disais, ce phénomène va s'amplifier dans les années à venir avec en plus la hausse du niveau des mers qui va s'intensifier.
Alors aujourd'hui, quelle est la situation ? J'ai envie de dire, quelles sont les zones les plus touchées et de quelle ampleur ?
Alors, c'est très divers, en fait, selon les côtes dans le monde, notamment à cause de facteurs qui sont variés également. Donc, ça va d'érosion, même des endroits qui augmentent, en fait, qui accroissent sur la mer, et d'autres qui sont en retrait, donc de plus quelques mètres à moins quelques centaines de mètres par an.
Alors, quelles sont les causes, globalement, de cette érosion côtière, qui menace quand même énormément de monde, hein, parce que je le disais, 60% de la population mondiale vit près des côtes.
Alors effectivement, les côtes, historiquement et de plus en plus, c'est des endroits qui sont très attractifs pour les activités humaines, avec la plupart des grandes métropoles qui sont situées sur les zones côtières, avec souvent plusieurs millions d'habitants, sur des côtes basses qui sont accessibles, notamment pour le développement des infrastructures portuaires. Et donc, les causes vont dépendre des endroits. En fait, souvent, effectivement, on a tendance à placer le changement climatique comme le facteur principal de l'érosion et de la submersion marine. Or, quand on regarde un petit peu en détail, on voit que c'est d'abord les activités anthropiques, donc liées aux activités humaines locales, qui vont induire cette érosion et cette submersion. Alors, localement, on pourrait parler de Jakarta, une ville en Asie, qui s'est effondrée de plusieurs mètres en quelques décennies. Ce n'est pas dû au changement climatique et c'est d'ailleurs bien plus fort que tout ce à quoi on peut s'attendre avec une hausse du niveau des mers. Et c'est dû à ce qu'on appelle la subsidence, c'est-à-dire un changement du niveau terrestre. Donc c'est souvent dû à la masse des habitations et le pompage des nappes phréatiques qui fait que le sol qui a moins de masse s'effondre.
Oui, donc Jakarta, c'est quand même un effondrement de 6 mètres en 50 ans, c'est ça ?
C'est à peu près ça, effectivement. Donc c'est bien plus fort que n'importe quelle hausse du niveau des mers sur un siècle. Alors, la subsidence est un mécanisme très local, mais par contre, que l'on retrouve dans la plupart des côtes. Donc, il est dû aux constructions dans les villes, au pompage des nappes phréatiques pour l'agriculture, mais également à l'exploitation pétrolière, comme on retrouve dans des deltas, comme le Niger, mais aussi dans le sud-est asiatique.
Et alors, il y a une cause à laquelle on pense moins quand on parle des côtes, et qui pourtant est vraiment importante, ce sont les barrages sur les fleuves. Expliquez-nous cela.
Alors, effectivement, le sable des plages et des côtes, il vient de la terre et c'est donc les rivières qui vont fournir la majorité de ce sable. Donc actuellement, le niveau de la mer monte peu. Donc finalement, l'érosion qui est observée, c'est surtout dû à un déficit de ce sable, de l'apport des rivières. Or, au cours des 50 dernières années, de nombreux barrages ont été construits sur la plupart des grands fleuves dans le monde entier. Et ça a fait une réduction assez importante qui était peu prévue quand ces barrages ont été construits, qui peut atteindre 80% du sédiment en moins qui arrive sur les côtes. Alors forcément, ça prend un certain temps pour voir l'effet en fait, sur les côtes, mais c'est la cause majoritaire actuellement du retrait des côtes.
C'est-à-dire que les fleuves retiennent le sable finalement à cause des barrages, du coup les côtes en sont dénuées, ça ne revient pas naturellement du fond de l'océan, quoi.
Voilà, effectivement, il y a toujours autant de pertes dans les océans, mais par contre, il y a moins d'apports par les rivières, et du coup, ça fait des zones littorales en déficit. Et ça expliquerait, il y a des scientifiques qui travaillent dessus, l'érosion actuelle qui n'a pas encore lieu d'être aussi massivement à cause de la hausse du niveau des mers, qui est de 3 mm en moyenne par an et qui va s'intensifier, mais qui commence à peine à être perceptible en termes d'impact côtier. Et en même temps, on parle d'augmentation de la fréquence des tempêtes, etc. Mais il n'y a pas de tendance significative à l'échelle globale à l'augmentation des événements extrêmes qui pourraient actuellement expliquer une érosion généralisée.
Oui, alors la hausse du niveau de la mer, rapidement, vous le disiez, c'est 3 mm par an. On peut peut-être rappeler pourquoi ça monte.
Alors, il y a diverses causes à la hausse du niveau des mers. Il y a la fonte des calottes polaires, des glaciers sur les montagnes, il y a l'expansion thermique. En fait, de l'eau chaude prend plus de place que de l'eau froide. Tous ces effets se cumulent. Et à la côte, il y a d'autres effets comme la pression atmosphérique, les vagues, etc., qui vont faire une surcote moyenne.
Voilà, donc plus de 3 mm par an et on s'attend à une hausse du niveau de la mer. Alors ça varie en fonction des projections, mais de quoi, 80 cm en moyenne d'ici la fin du siècle, c'est cela?
Alors c'est ça, c'est les projections les plus pessimistes, on va dire. Si on garde une activité économique et des émissions de gaz à effet de serre équivalents à l'actuel, on s'attend à des hausses du niveau des mers de 80 cm. Maintenant, il y a des scénarios plus optimistes où on arrive à réguler ça et qui sont un peu moindres. Mais ça reste de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres.
Alors, si on se concentre sur les côtes ouest africaines, est-ce qu'elles sont particulièrement touchées par l'érosion côtière?
Alors il faut savoir que l'Afrique, c'est un, que c'est des zones basses, donc exposées aux inondations. Si en plus les villes sont construites en bord de mer, donc elles sont basses. Et en plus, c'est des sableux, ça veut dire aussi mobiles, donc avec une très forte évolution au cours du temps.
Et donc, du coup, ce sont des côtes qui sont largement soumises à l'érosion côtière aujourd'hui, parce que là aussi, il y a eu des barrages sur les fleuves.
Alors déjà, l'Afrique de l'Ouest en particulier, avant de parler d'érosion, c'est une zone qui est soumise à l'influence de l'océan Atlantique. C'est une zone qu'on appelle hors des tempêtes. Il y a très peu de tempêtes localement, donc c'est des houles qui viennent de loin, qui ont parcouru des milliers de kilomètres avant de s'échouer sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Mais ces côtes, elles vont être imprégnées de cette signature des vagues qui viennent de loin. Donc il y a une très forte variabilité. Donc souvent, quand on construit, on essaie de figer quelque chose qui est très variable. Et c'est là où on commence à avoir de l'érosion parce qu'on accentue finalement les mécanismes d'érosion au détriment de ce qu'on appelle la résilience, qui va être la reconstruction naturelle des côtes.
Et du coup, quelle est l'ampleur de l'érosion en Afrique de l'Ouest aujourd'hui?
Alors, encore une fois, elle est très variable. Il y a même des endroits qui sont en accrétion, donc en engraissement. Après, la plupart des zones sont en érosion. Par exemple, je pense à Cotonou, dans certains quartiers est de la ville, on a une érosion qui a de plusieurs dizaines de mètres par an. Donc c'est extrême. Donc c'est dû aux infrastructures humaines, avec par exemple les constructions des ports en eau profonde qu'on trouve sur les grandes métropoles du golfe de Guinée, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos. Et c'est d'abord ça qui va induire cette érosion localisée, donc très forte, c'est extrême, sachant que ces métropoles sont situées entre les rivières Volta et Niger, où on a également construit des barrages et on commence à percevoir une réduction des apports, en fait, à peine maintenant.
Donc l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest n'est pas due au dérèglement climatique aujourd'hui.
Ça commence à l'être, mais ce n'est pas le facteur dominant de l'érosion côtière.
Alors pour comprendre l'impact de l'homme sur le littoral, je vous propose d'aller dans le nord du Sénégal, dans la ville historique de Saint-Louis, où 550 familles de pêcheurs doivent quitter les quartiers populaires de Guendar et de Ndartout pour être relocalisées. Leurs habitations cèdent sous les assauts des vagues.
Ici, c'était le cimetière. Lorsque nous avons quitté le village, nous avons emporté les restes de nos ancêtres. Là, c'était l'école. Et là, la grande place où nous réparions nos filets de pêche et où tout le monde se rencontrait. Si on te dit qu'ici, il y avait un village, tu ne croirais pas. Tout a disparu sous les eaux de la mer. Il ne reste que le haut des arbres qui dépassent et quelques bouts de murs. Est-ce que tu imagines qu'ici, on faisait pousser nos légumes sur les bancs de sable? Et ce que tu vois là, c'est tout ce qui reste de mon village. Maintenant, on ne voit que des déchets plastiques, les seringues, les canettes, les bidons. Ça vient de Saint-Louis avec les courants du fleuve et de l'océan. Ça me fait mal parce que je sais que cette pollution a des effets sur l'environnement et le climat.
C'est un spectacle de désolation que décrit ici Magui Diagne, ce pêcheur qui vit tout près de la ville de Saint-Louis. La région fut pourtant un joyau de la biodiversité avec des sites de ponte pour les tortues marines, des mangroves et deux réserves ornithologiques. Tous ces trésors sont aujourd'hui menacés, tout comme des villages entiers de pêcheurs qui pourraient connaître le même sort que celui de Dounbaba Dieng. Depuis des siècles, la petite Venise, comme on la surnomme, était protégée des vagues de l'océan Atlantique par la langue de Barbarie. Mais depuis 2003, tout a changé. Samuel Turpin a rendez-vous à l'embouchure du fleuve Sénégal avec le professeur Dadieng. Il est géographe à l'université de Saint-Louis.
C'est fou, hein? Ça a créé une lagune ici. La dernière fois que j'étais là en février, là on voyait la mer directement, là, les vagues là. On les voyait, ce banc de sable était à peu près là. Et l'embouchure en 2003 était à peu près à 15 km. Là, nous sommes à Tassinière, qui est au sud de Saint-Louis. Et ce qu'on voit en face, c'est la langue de Barbarie. Donc la langue de Barbarie est une bande de terre qui part du sud de la Mauritanie et qui constitue une dune large de 200 à 300 mètres.
Et environ une trentaine de kilomètres
en longueur. Une trentaine de kilomètres de longueur. Et qui constitue un rempart contre les eaux de l'océan. Cette langue de Barbarie a toujours été rompue par les eaux du fleuve Sénégal qui cherchait son embouchure, son exutoire. Cette embouchure a toujours été mobile et elle progressait tout le temps vers le sud.
Elle avance en fait avec les courants marins et voilà. Avec la force hydraulique.
Un mélange de dynamisme fluvio-maritime avec les dépôts de sable au niveau de l'océan et aussi les dépôts fluviaux. Et l'embouchure la plus proche de Saint-Louis se trouvait à moins de 5 km au niveau de ce qu'on appelle hydrobase.
Historiquement, hydrobase, c'était la base aéropostale utilisée par Jean Mermoz.
Voilà, exactement. Et cette embouchure a toujours progressé vers le sud. Et en 2003, l'embouchure du fleuve Sénégal se trouvait à 30 km de Saint-Louis. Et comme Saint-Louis était une zone très basse, c'est le delta du fleuve Sénégal, Saint-Louis a été inondé, Saint-Louis a recueilli beaucoup d'eau qui stagnait et qui avait du mal à s'évacuer vers l'embouchure.
Dû à la saison des pluies, en fait, hein, l'hivernage ?
Dû à l'hivernage, parce que le fleuve Sénégal, en fait, draine des eaux depuis la Guinée. Donc les eaux de la Guinée, du Mali, du Sénégal oriental. Et toutes ces eaux sont drainées à travers le fleuve Sénégal et arrivées dans le delta. Ce qui fait que c'était une année très pluvieuse et il y a eu beaucoup d'eau dans le fleuve. Et ce qui a provoqué des lâchers au niveau des barrages. Et cette eau n'arrivait pas à s'évacuer naturellement. Et du coup, Saint-Louis était inondé. Et pour résoudre ce problème, le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade, avait demandé à un cabinet de faire une proposition. Et ce cabinet marocain avait fait la proposition d'ouvrir une brèche, juste au sud de Saint-Louis, justement à l'hydrobase.
C'est environ à 3-4 km au sud de la ville historique de Saint-Louis.
Exactement. Et cette brèche a été créée dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003. Elle était large de 4 mètres quand elle était créée. Ça a permis très rapidement d'évacuer les eaux de Saint-Louis.
Mais
de 4 mètres la nuit du 3 au 4 octobre, ben elle est passée à des centaines de mètres quelques semaines après. Et actuellement, elle est à plus de 5 km.
En fait, cette brèche, elle a coupé la langue de Barbarie en deux. On a une partie nord et une partie sud maintenant.
Exactement. Donc la langue de Barbarie est coupée en deux par cette brèche de 5 km. La partie sud est là. On voit bien là le début de la partie sud qui est à quelques centaines de mètres de nous. Et la partie nord est à près de 5 km de nous.
Ça a permis à l'eau de la mer de s'infiltrer derrière la langue de Barbarie qui était son rempart.
Voilà. Et du coup, toutes les terres qui étaient alimentées par de l'eau douce du fleuve sont devenues salées. Et du coup, le maraîchage a laissé place à des salinières. Ici à Gandiol, les maraîchers deviennent des vendeurs de sel. Et depuis que la brèche est ouverte, ce qu'on a constaté, c'est la perte de la biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces qui existaient avant, des poissons, qu'on ne retrouve plus. On a des crevettes qui étaient en abondance à Saint-Louis, qui sont devenues denrées rares. Si la brèche continue son avancée vers le sud, l'îlot aux oiseaux disparaîtra. Et l'îlot aux oiseaux, c'est le cœur du parc national de la langue de Barbarie. Les oiseaux viennent d'Europe, viennent de partout, et en hiver, on les voit arriver, et ils sont là jusqu'en mars en général.
Il y a des cormorants, des sternes même, hein, qui viennent du Groenland.
Ouais, donc on a des oiseaux qui viennent d'un peu partout. On a une perte en biodiversité côté flore. Parce que là, on avait beaucoup d'arbres qui longeaient le fleuve et qui ont disparu, vous voyez bien. Et ce sont des arbres qui ne résistent pas au sel. Et ici à Gandiol, les populations ont planté beaucoup de filao partout où il y a des dépôts de sable.
Les filao sont ces arbres qui résistent très bien à l'eau de mer.
À l'eau de mer, aux embruns marins et tout. Donc là, ce sont des actions qui sont très positives. Parce que les filao plantés côté nord sont devenus maintenant grands.
Et tout ça, c'est alors un programme national, mais avec le concours des populations locales.
Oui, il faut dire que c'est quand même un programme national. Parce que ce sont les services des eaux et forêts qui sont à la base et qui aident à planter, donc qui mettent les pépinières et qui viennent planter. Maintenant, les populations aident à sauvegarder.
En 2003, le temps qu'on a creusé cette embouchure, il y avait des effets ici.
Un habitant se joint spontanément à la conversation. Sa famille habite sur cette plage depuis plus de 3 siècles. Au fil de la conversation, nous apprenons qu'Ibrahima dirigeait un collectif de pêcheurs qui était en charge de surveiller l'embouchure et de secourir les embarcations en péril.
Mais l'eau douce qui vient, qui permet les cultivateurs pour cultiver 6 mois ou bien 7 mois après l'hivernage, l'eau entre directement en mer. On ne peut pas pêcher. Ici, on ne connaît que la pêche. Moi, je suis né ici, ma maison est là. Mes ancêtres viennent ici avec beaucoup de chameaux avant. Il y avait une collectivité de pêcheurs, c'est moi le dirigeant. C'est moi qui surveille l'embouchure. La majeure partie des villageois, on est parti en Espagne. Il y avait beaucoup de morts ici dans ces villages. Il y avait des familles entières qui sont mortes ici, sur la route d'Espagne. Il y avait une semaine de cela, il y avait un perroquet qui a chevré, il y avait 2 morts. En matière, j'ai trouvé un corps ici. Presque 2003 jusqu'à ici, il y avait 600 morts. Tout ça, c'est à cause de l'embouchure qu'on a creusée en 2003. Il a fait beaucoup de catastrophes dans ces villages.
Le fait que l'embouchure soit dangereuse est lié à 2 ou 3 choses. La première chose qu'il faut constater, c'est qu'avant, il y avait de petites pirogues qui traversaient l'embouchure. Et elles ne traversaient l'embouchure qu'en marée haute. Et ces petites pirogues pouvaient accoster côté langue de Barbarie, côté Guendar, donc devant Saint-Louis. Il y avait de la plage qui permettait aux petites pirogues d'accoster. Et depuis l'ouverture de la brèche, cette grande ouverture a permis à toutes les pirogues de passer. Ils ont commencé à construire de grandes pirogues pour traverser. En marée haute, elles passaient. Et quand elles revenaient, ces grandes pirogues, elles étaient remplies de poissons. Alors, elles ont un tirant d'eau qui devient plus important. Et à chaque fois que les pirogues touchent un banc de sable, ben, la pirogue s'en renverse, c'est tout. Et les bancs de sable n'étaient pas visibles. Ce n'est pas la barre qui crée le problème.
La barbe, c'est la rencontre entre l'eau du fleuve et l'océan Atlantique.
Oui, donc c'est une zone dangereuse, c'est sûr. Ces gens, ils savent bien naviguer et ils ont toujours passé cette barre sans problème. Il faut draguer le fleuve et la pêche et créer un chenal pour faciliter le passage des pirogues, mais aussi des gros navires. Ça réglerait le problème des chavirements de pirogues et autres au niveau de la pêche. Et il n'y aurait plus de morts à la pêche.
Et ce programme de dragage est annoncé depuis plus de 20 ans, sans avoir jamais démarré. Les habitants et les ONG pointent la passivité des autorités devant les conséquences et le manque de solutions depuis 2003. Le vivier de poissons d'eau douce qui vit dans l'embouchure ne survit pas aux eaux salées de l'océan. Il y a de moins en moins de poissons au large des côtes, notamment à cause de gros chalutiers qui viennent pêcher très près du littoral. Les pêcheurs sénégalais accusent les autorités de brader leurs ressources à des grosses compagnies étrangères, ce qui les oblige à prendre de plus en plus de risques en haute mer. Par manque de perspective, les jeunes n'hésitent pas à tenter l'aventure vers l'Europe. Chaque semaine, des pirogues tentent de rallier les Canaries. C'est environ 9 jours de mer, avec les risques que l'on connaît. Début novembre, au moment de notre reportage, 22 personnes étaient portées disparues. Direction la langue de Barbarie, et plus précisément le quartier populaire de Guendar. C'est le quartier des pêcheurs, le cœur économique de Saint-Louis depuis des siècles. Avec le professeur Dadieng, nous rencontrons Mamadou, qui a tout perdu après une violente tempête en 2017.
Là, on est à Guendar, donc sur la langue de Barbarie. Et on est à la limite entre le quartier de Guendar, qui est le quartier le plus densément peuplé de la ville de Saint-Louis, et le quartier de Ndartout. On dit que c'est la plus grande densité de population du Sénégal. Et même, on le compare à des densités mondiales.
Calcutta, par exemple.
Calcutta, par exemple. Depuis des années, la mer venait taper sur le mur sur lequel on est. Ce mur a été construit entre 1927 et 1930. Et elle a résisté depuis. Et elle a été proposée par Federbe.
Federbe, on le connaît un petit peu plus à Saint-Louis pour le pont.
Pour le pont, mais c'était aussi le gouverneur de l'Afrique occidentale française. Parce que depuis le 19e siècle, la mer faisait ses agressions déjà.
Là, on a le vent de l'océan avec nous, hein, et les vagues qui nous emmènent. On a une pirogue là, hein, qui arrive devant nous. Là-bas, ils sont quasiment en train de surfer la vague.
C'est le spectacle qu'on avait l'habitude de voir ici. Tous les jours, on avait un défilé de pirogues qui surfaient sur les vagues et qui venaient débarquer leurs produits de pêche. Alors, quand on était plus jeune, là, cette plage, elle faisait une largeur de plus de 100 mètres. Et c'était notre lieu de loisir. On venait jouer au foot. Et les pirogues qui venaient de pêche accostaient vraiment à une centaine de mètres. Et cette plage a complètement disparu.
Là, on voit toutes les vagues qui viennent vraiment lécher tout le bord, là.
Voilà. Et maintenant, les pirogues qui accostaient ici, maintenant, accostent côté fleuve.
Et de l'autre côté, c'est-à-dire à environ 200 mètres derrière nous.
À l'abri de l'océan. Donc les pirogues passent par la mouchure et vont accoster côté fleuve. Si on voit là, on est à une dizaine de mètres, le mur est détruit, est complètement détruit. Il y avait une mosquée là, dernière de l'école, et c'était la première de Guendar. Et c'est elle qui accueillait pratiquement tous les élèves de Guendar. L'école arrivait jusqu'au mur, ici. Et voilà ce qu'il en reste.
Elle est entièrement détruite.
entièrement détruite. La conséquence, c'est qu'il fallait recaser ses enfants dans d'autres quartiers de Saint-Louis, à plusieurs kilomètres parfois. Beaucoup de parents ont choisi de garder les enfants plutôt que de les laisser traverser des quartiers pour aller à l'école. Donc ce qui fait qu'il y a une déperdition scolaire impressionnante dont personne ne parle, mais qui va être encore plus grave parce que d'ici quelques années, il n'y aura pas d'enfants scolarisés à Guendar. Ça, c'est un autre problème collatéral de ces dégâts du littoral. Voilà, mais maintenant, les pirogues qui n'ont plus de plage mais se retrouvent carrément dans la cour de l'école. Et derrière, nous avons un quai de pêche et les camions venaient là-bas pour transporter tout ce poisson pêché à Saint-Louis vers les autres villes du Sénégal. Et ce quai aussi a été détruit. Et maintenant, Guendar a perdu non seulement une bonne partie de sa plage, les maisons qui étaient en front de mer, mais aussi le seul quai de débarquement de poissons. Là, on arrive dans les maisons qui ont été détruites par l'océan. Alors, pour mieux comprendre, si on regarde, les concessions sont de petites maisons où il y a beaucoup de ménages. On peut trouver jusqu'à une dizaine de familles qui occupent juste une chambre.
Là, on a toute une allée devant nous de maisons qui ont été complètement avalées par l'océan.
Oui, c'est le cas de le dire. Il ne reste que les poteaux qui renforçaient en fait le mur.
À seulement 30 mètres de nous. Hein.
Tout a été carrément dévasté.
Alors là, en fait,
on est à l'intérieur d'une concession.
À l'intérieur d'une concession, c'est un mur qui est complètement détruit avec la vue complètement ouverte sur l'océan. L'océan est à côté de nous.
L'océan est à côté de nous, à quelques mètres de nous. Et les portes des chambres ouvrent directement sur l'océan. Et sans escalier, sans rien du tout. Donc il faut gravir les gravats des restes des constructions pour accéder aux portes des chambres.
Salam alaikum.
Alaykoum salam. Ça va?
Oui, bien.
Mamadou, ça va?
Oui.
Namadev?
Oui, alhamdoulilah.
Alors, nous tous deux?
Mamadou Thiam. Je suis Baïpal Thiam.
Donc, on est dans la maison de Mamadou.
Je suis Fila Djoudou. Je suis Maksa Fila Djoudou.
Il a 54 ans et il est né ici. Donc, ses grands frères sont nés ici. Donc, c'est leur maison de toujours. Donc, leurs parents vivaient là et ils sont tous nés ici.
Tous pêcheurs?
Donc, tous pêcheurs. Donc les vagues sont venues taper et détruire pratiquement tout ça.
Et puis 2017.
Lors de la tempête en 2017.
Après la tempête, nous avons été relogés à l'école Cheikh Touré durant 2 mois et 20 jours. Ensuite, nous avons été transférés vers le site de Raliara. Là-bas, nous avons vécu 1 an et demi sous des bâches de réfugiés dans des conditions insalubres. Nous vivions à plusieurs familles sous une seule bâche. Dès qu'il pleuvait, nous étions inondés. Maintenant, nous avons été transférés dans un nouveau site provisoire équipé de latrines et de conteneurs en attendant la construction de maisons en dur. Le problème, c'est que ce site est très loin, environ 15 km à l'intérieur des terres. Cela signifie que nous devons prendre des transports pour venir ici. C'est très cher. Avant, les pêcheurs partaient très tôt le matin pour revenir vers 7 heures. Les femmes pouvaient alors vendre le poisson au marché sur la plage quand il était tout frais ou le transformer. Nous avons toujours travaillé comme cela. Mais cet équilibre est rompu. Aujourd'hui, nous sommes trop loin. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ne viennent plus travailler. Les femmes aussi préfèrent rester là-bas, avec les enfants. Seulement quelques-unes transforment un peu de poisson. Les familles n'ont plus rien pour vivre. Et cela cause de grosses mésententes dans les ménages. Ça me fait mal chaque fois que je viens ici. Je repense à chaque fois au passé. J'ai de la nostalgie. La nostalgie de mes amis, de mon travail. Ma mère est née dans cette maison et elle y est morte. On peut me donner n'importe quelle maison. Moi, c'est ici que j'ai envie de vivre.
Mamadou se confie. C'est la brise du vent qui me manque le plus. J'ai l'impression de manquer d'air là-bas. Plus de 550 familles doivent être relocalisées. Mais beaucoup d'entre elles refusent, car aucune alternative économique ne leur est proposée. Alors, quelles sont les solutions envisagées pour préserver la langue de Barbarie ? Il y a des projets. En tout cas, il y a des annonces de projets. Mais le professeur Dadieng doute de leur viabilité.
Donc, il est prévu sur une bande de 20 mètres de mettre en place une solution provisoire de digues de protection avec des gabions qui permettent de protéger les premières maisons. Mais au-delà de la solution d'urgence, il est prévu, à la place de ces maisons qui seront déplacées sur la bande des 20 mètres, de planter des fils à eau pour protéger contre l'agression marine. Cette solution me semble illusoire. Parce que là où les maisons n'ont pas résisté aux vagues de l'océan, des fils à eau ne résisteront pas. Une troisième solution est proposée, c'est de créer une promenade qui va être une digue de protection et une route en même temps. Et ça pourrait intégrer le programme de développement touristique de la ville de Saint-Louis. À côté de cette digue de protection, on peut même regagner de la plage en mettant en place des brise-lames à une centaine de mètres. Les brise-lames vont casser la force des vagues et vont permettre une sédimentation, un dépôt des sables et la plage aurait regagné sa place.
Alors ça, c'est pour tout le quartier de Gendar qui est complètement exposé à la mer. Mais derrière, il y a le Saint-Louis continental avec son littoral. Et là, le problème n'est pas le même.
Dans le reste de la ville, il y a deux autres composantes. Il y a l'île qui est le cœur de la ville de Saint-Louis et le faubourg de Sort. Le faubourg vit surtout un problème d'assainissement. Aucun assainissement n'est fait pour les eaux pluviales. Alors qu'une bonne partie de ce quartier est constituée de marécages qui, pour quelques gouttes d'eau, deviennent inondées. On a une épaisse couche d'argile qui empêche l'infiltration des eaux de pluie. Il faudrait drainer les eaux pluviales et les évacuer vers tout ce qu'il y a comme étendue d'eau tout autour de Saint-Louis. Vraiment, évacuer les eaux de pluie vers le fleuve ne devrait pas poser de problème.
Quelle cadence! Alors là, il y a une dizaine de pêcheurs qui se synchronisent pour tirer les filets de pêche et les ramener à terre. Les filets peuvent faire plus d'un kilomètre, c'est extrêmement physique.
Dadieng, nous quittons la folie ambiante du quartier de Gendar, le quartier de pêcheurs, où nous venons de rencontrer Mamadou.
Nous sommes sur les quais qui, durant trois siècles, ont vu embarquer des dizaines de milliers d'esclaves pour l'Europe et pour les Amériques. Car Saint-Louis, c'était la plaque tournante de la traite humaine en Afrique de l'Ouest.
À côté de Gorée, Saint-Louis était le lieu de rassemblement de tout ce qui était acheté vers l'intérieur du pays. Ils utilisaient le canal du fleuve pour aller les amener. Mais Saint-Louis a connu des heures plus glorieuses. Pendant la colonisation, Saint-Louis était quand même la capitale de l'Afrique de l'Ouest.
Nous avons passé un petit pont. De là, nous avons vu des milliers de pirogues d'une vingtaine de mètres qui maintenant se parquent à l'abri des vagues pour rejoindre le quartier historique de Saint-Louis, qui est en cours de réhabilitation.
L'île de Saint-Louis, c'est le cœur de Saint-Louis. L'île est classée depuis 2000 dans le patrimoine mondial de l'UNESCO de par son histoire. Cette île a un patrimoine architectural remarquable qui date de la colonisation. Nous avons juste en face, là, la première cathédrale du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, qui a été récemment réhabilitée.
Dans ce programme, il y a une petite spécificité, c'est que il y a de l'aide à la rénovation privée.
Il y a à peu près 120 propriétés privées qui sont identifiées comme devant être rénovées dans le programme de développement touristique, en gardant leur architecture, et qui vont être refaites à l'identique dans la ville. À côté de cela, il y a la place Fédère qui va être rénovée et toutes les rues de Saint-Louis seront refaites. Donc le cœur de Saint-Louis va connaître une rénovation, du renouveau qui va donner un souffle sur le plan touristique à la ville de Saint-Louis d'ici 2 voire 3 années. Ici Saint-Louis, allô, allô.
Allô, Casablanca, sais-tu? Là dans mon pauvre ciboulot, j'entends de vieux pianos têtus qui bastrinent l'hôtel de la poste et de chasseurs de lions qui toastent. Allô, Saint-Louis, allô, je mets ta voile, sais-tu? Bien au-dessus de tous les flots, du vent et des cases pontues. Allô, Saint-Louis du Sénégal. Plus rien, c'est pas normal. Allô Saint-Louis, allô, y'a la friture en plus. Entre nous, plein de gros ballots, des cumulos, cirrostratus. Allô Saint-Louis du Sénégal, j'aime pas la boîte en général. Allô Saint-Louis du Sénégal. Allô Saint-Louis du Sénégal. Allô Saint-Louis, allô, le bruit on s'habitue. Pilote ou simple matelot, c'est le silence au fond qui tue. Allô Saint-Louis du Sénégal. Allô Saint-Louis du Sénégal.
Un reportage de Samuel Turpin. Raphaël Almar, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRD, au LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? Vous connaissez bien cette zone.
Alors effectivement, c'est un site emblématique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est un cœur de ville qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, des zones naturelles importantes. Et vous avez évoqué le terme intéressant de protection par la langue de barbarie de la ville de Saint-Louis. Et ça, c'est intéressant. On appelle ça les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que rendent les écosystèmes naturels à l'homme, aux activités humaines. Et cette langue de barbarie peut être vue comme une barrière en fait, aux assauts de l'océan, comme ça a été dit. Et on voit que c'est le cas. Et en fait, c'est un site où il y a des intérêts divers et qui rendent toute solution très complexe. Entre les intérêts des diverses communautés, les facteurs de la vulnérabilité qui sont aussi compliqués, donc ça va amener à des solutions qui vont être difficiles dans les années à venir. Et c'est pourquoi, en fait, on établit des programmes qui sont très complexes également de recherche en lien avec les décideurs locaux et les populations aussi pour retrouver qu'est-ce qui serait le plus approprié.
Alors, dans le reportage, on entend parler de digues, hein, digues de protection ou de planter des fils à eau, des arbres pour contrer les assauts des vagues de l'Atlantique. Que pensez-vous de ces solutions ?
Alors, s'il y avait une solution qui marchait, on le saurait. Ça serait une évidence. Ce n'est pas encore le cas, donc il faut quand même faire quelque chose. Donc on cherche des solutions à court terme. Il y a quand même le côté d'urgence. En fait, il y a toujours eu cette gestion de la langue de barbarie, enfin toujours depuis quelques décennies, avec une ville de Saint-Louis qui est soumise aux inondations du fleuve Sénégal, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une brèche qui a été ouverte en 2003 dans la langue de barbarie pour évacuer les eaux fluviales mieux dans l'océan. Le problème, c'est que cette brèche qui faisait initialement une dizaine de mètres à peu près, elle s'est ouverte jusqu'à faire plusieurs kilomètres. Et donc, au lieu d'avoir les assauts du fleuve, on a maintenant cette langue de barbarie qui s'est réduite et qui permet aux vagues et à la marée de rentrer dans la lagune. Donc, on a maintenant plutôt une vulnérabilité qui vient de l'océan plutôt que du fleuve. Donc, il faut bien trouver une solution. Ensuite, dans l'urgence, il a été décidé de construire un ouvrage de protection pour la zone urbaine, donc en face des maisons, donc il épouserait au mieux la forme naturelle de la plage, donc avec des enrochements. Donc ça, c'est pour pallier à l'urgence. Avec un consortium entre l'IRD, l'Université de Gaston Berger et l'UCAD à Dakar, on essaie de fournir le plus d'informations possible en faisant un suivi environnemental sur le design de cette structure, mais également quand elle sera construite. Elle est en cours de construction actuellement, ça a débuté en décembre 2020. Et également sur son impact sur la langue de barbarie en amont de la dérive littorale. Ça, c'est un projet financé par l'Agence française pour le développement et piloté par l'Agence de développement municipal du Sénégal. Et en parallèle, il y a un projet financé par la Banque mondiale qui vise à modéliser l'évolution future et notamment à envisager également des solutions, ce qu'on appelle douces, c'est-à-dire en plus de la solution d'urgence qui est cet ouvrage de protection, une relocalisation des populations à l'intérieur des terres.
Mais alors ça, vous dites une solution douce, mais pour les gens, c'est quand même assez violent. Et est-ce que ces solutions-là sont des solutions un peu de dernier recours que l'on peut imaginer avec l'impact, vous disiez, de l'activité humaine plus l'impact du dérèglement climatique? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va voir de plus en plus de gens être obligés de se déplacer, de capital qui devront être aussi relocalisés?
Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution. Déjà, il n'y a pas de solution générique applicable partout. Ça dépend bien évidemment des conditions locales. Par exemple, la Hollande, les Pays-Bas sont en dessous du niveau de la mer, mais donc ils devraient être inondés, mais ils ont maintenu en fait un système de dunes en réensablant pour maintenir ce trait de côte historique. Mais ces coûts-là ne peuvent pas être mis en place pour ces solutions partout dans le monde. Et on ne peut pas non plus s'acharner partout à vouloir maintenir un trait de côte. Donc finalement, je pense qu'on va vers quelque chose où on va avoir une protection des endroits les plus privilégiés avec la solution BIS, qui est de relocaliser ou de rendre les populations plus à l'intérieur des terres. Mais également, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est revaloriser les écosystèmes qui nous fournissent vraiment des services. Donc, renaturaliser ces zones tampons côtières qui sont soumises aux assauts de l'océan. Quand on voit, par exemple, en France, il y a encore des décennies avant que le tourisme de masse n'arrive, les villes côtières étaient situées à plusieurs dizaines de kilomètres dans les terres. Pour citer Lacanau, Biscarrosse, ville, ils étaient à dizaines de kilomètres, alors que les villes touristiques sont situées en bord de mer et c'est elles qui souffrent de problèmes liés à l'érosion.
Et quand vous parlez d'écosystèmes tampons, ça veut dire qu'il faudrait faire attention à bien préserver, par exemple, les mangroves ou replanter des dunes aussi?
Alors, effectivement, quand on voit l'exemple hollandais, on se dit que replanter des dunes, c'est quelque chose d'intéressant. S'il n'y a pas une ville construite sur la dune, sinon ça limite tout service. Les mangroves limitent forcément l'érosion en fixant le sable et le sédiment. mais également ça freine la marée qui pénètre moins dans les terres et notamment ça limite les problèmes d'eau saumâtre en fait pour l'agriculture. Eau saumâtre, c'est-à-dire des eaux un peu salées donc, qui vont être pompées pour l'eau potable et l'irrigation et qui ne sont pas parfaites pour l'agriculture. Et les dunes et plages, en fait, les systèmes sableux sont des zones bien évidemment de tampons qui vont dissiper l'énergie des vagues et protéger également de l'inondation les zones urbaines plus à l'intérieur des terres. Mais également, il y a quelque chose qui est très important, c'est on se rend compte, en fait, déjà, s'il n'y avait pas de vagues, il n'y aurait pas de plage. Donc, les vagues ne font pas que de l'érosion, c'est les vagues qui vont apporter le sable. Il faut voir, en fait, avoir ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire une approche d'ensemble du système littoral. Une tempête, ça va éroder la dune et la plage. Le sable, il n'est pas perdu. On va observer une érosion ponctuelle. Ce sable, il va aller au large. Il va générer une barre sableuse, ce qu'on appelle à quelques centaines de mètres, qui va dissiper l'énergie des vagues au large. Ça protège, c'est une vraie barrière, en fait. Maintenant, après la tempête, ce sable, il va revenir petit à petit, reconstruire la plage et la dune sous l'effet du vent. Ça prend un peu de temps, mais il y a ce mécanisme naturel de résilience. Maintenant, si on bloque ce mécanisme, en fait, on accentue, on accélère l'érosion. C'est ce qu'on observe dans la zone urbaine de Saint-Louis actuellement.
Voilà pourquoi il ne faut pas trop construire sur le littoral, finalement. Il faut laisser ce qu'on appelle le trait de côte évoluer naturellement. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'érosion.
Effectivement, et c'est pour ça que la loi littorale en France est quelque chose de très intéressant en termes de gouvernance, parce qu'elle permet de maintenir cette zone naturelle, une zone qui est très dynamique et qui protège l'intérieur des côtes.
Alors, il y a le programme WACA aussi, qui est porté par la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, parce que c'est un programme qui est très important sur cet enjeu de l'érosion côtière?
Ah oui, c'est une initiative, je pense, unique en fait à cette échelle-là, qui vise à rassembler tous les acteurs, les réseaux d'entreprises, la gouvernance, les académiques autour de ces questions de vulnérabilité littorale, sachant que personne n'a la solution, sinon elle serait déjà appliquée. Donc ça vise à faire émerger des nouvelles solutions qui, je pense d'ailleurs, seront spécifiques à l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas appliquer des solutions qui se font ailleurs à l'Afrique de l'Ouest. Donc la Banque mondiale fédère d'autres agences de financement autour de ces questions-là. L'idée, c'est de créer de l'expertise dans la région pour suivre ces questions. Donc, il y a des masters d'excellence qui ont été ouverts dans plusieurs pays. Également, pour promouvoir le réseau d'entreprises spécialisées dans ces questions, en lien avec, je disais, avec la gouvernance, avec les politiques, pour comprendre, mettre en place des solutions. Et également, il a été décidé de mettre en place un observatoire ouest-africain du littoral. C'est très intéressant parce que l'Afrique de l'Ouest se confronte à un manque d'observation. C'est-à-dire que les populations vont savoir qu'il y a une érosion, mais on ne va pas pouvoir le quantifier. Ça va limiter en fait, les études et les solutions qu'on pourrait apporter, la gestion intégrée des zones littorales, finalement. Parce qu'on a peu, on ne sait pas comment ça se comporte.
Voilà, donc la riposte s'organise, comme je le disais, mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Grâce à vous, on a un peu mieux compris ce qui se passait. Merci beaucoup, Raphaël Almar, d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous écrire à c'estpasduvent@rfi.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. En sol majeur,